DW. Droits et libertés.
Nous allons reparler cette semaine du Hezbollah avec une question. La mort de ses principaux dirigeants a-t-elle vraiment affaibli le mouvement chiite libanais, ou les frappes israéliennes ont-elles au contraire ressoudé les Libanais autour de cette milice soutenue par l'Iran? Et puis nous irons en Thuringe, dans l'est de l'Allemagne, où des musulmans tentent depuis des années de construire une mosquée en dépit de la montée de l'extrême droite. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde. À l'heure où nous enregistrons cette émission, l'armée israélienne continue de bombarder des cibles dans le sud du Liban et même dans la capitale libanaise, Beyrouth. La mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait été présentée par certains comme la fin d'une ère. Peu après l'attaque du Hamas lancée le 7 octobre 2023 contre Israël, de nombreux Libanais ont craint que le Hezbollah, qui a rapidement soutenu le Hamas palestinien, ne fasse arriver la guerre sur leur territoire, dans un pays très fragile politiquement et économiquement, et où plusieurs générations restent marquées encore aujourd'hui par les guerres successives. Mais depuis qu'Israël s'en prend ouvertement aux membres du Hezbollah en territoire libanais, quitte à cibler des quartiers ou des bâtiments qui abritent des civils, la population libanaise semble refaire corps, en partie tout du moins, autour du mouvement chiite. Alors comment se présente l'avenir militaire du Hezbollah? Écoutez à ce sujet Hugh Lovat, il est chercheur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Conseil européen des affaires étrangères.
Il ne fait aucun doute qu'Israël a remporté ce que l'on pourrait appeler une série impressionnante de victoires tactiques sur le Hezbollah. Il ne fait aucun doute qu'il a porté des coups très douloureux au mouvement, il a dégradé sa capacité organisationnelle, éliminé de nombreux dirigeants. L'État hébreu a frappé le mouvement assez durement et l'a poussé à se remettre en selle. Mais aussi impressionnante qu'elle soit, il ne s'agit là que de victoires tactiques, pas de victoires stratégiques. Ainsi, jusqu'à il y a quelques jours, l'objectif déclaré d'Israël était de mettre fin aux tirs des roquettes du Hezbollah contre le nord d'Israël, de repousser le Hezbollah jusqu'au fleuve Litani, etc. Mais Israël n'a pas encore atteint ses objectifs et ça m'étonnerait qu'il les atteigne.
Plusieurs experts militaires estiment que malgré les pertes qu'il a enregistrées parmi ses leaders, le Hezbollah n'est donc pas mort, loin de là. L'organisation a même été créée, dont l'idée que ses dirigeants seraient tués un jour et devraient être remplacés rapidement. Les membres se voient donc déléguer des rôles et des tâches qui se chevauchent, ce qui permet de combler rapidement tout vide laissé par un chef déchu. Voilà ce qu'explique par exemple Amal Saad, il est maître de conférences en politique à l'université de Cardiff au Royaume-Uni et observateur de longue date du Hezbollah, c'est ce qu'il a tweeté sur la plateforme X. Par ailleurs, le Hezbollah est bien plus qu'un simple groupe armé. Il s'agit d'un projet identitaire qui associe l'islam et la résistance, tous deux étroitement liés à la pensée communautaire et au récit de la communauté chiite. Voilà ce qu'a déclaré récemment à la chaîne de télévision Al Jazeera Mohanad Haj Ali, le directeur adjoint de la recherche au centre Carnegie pour le Moyen-Orient à Beyrouth. Le Hezbollah est donc une force politique et sociale importante au Liban, souvent décrit comme un État dans l'État. Il est doté d'un réseau de protection sociale et d'une armée qui rivalise avec les institutions de l'État libanais. Au Liban, la politique est basée sur un système dit confessionnel, c'est-à-dire qu'en dépit des élections, le pouvoir politique est généralement réparti entre les nombreux groupes démographiques qui vivent au Liban. C'est pourquoi le Hezbollah, qui s'adresse principalement aux musulmans chiites, est si populaire dans le sud et l'est du pays, où vit la majeure partie de la population chiite du pays. Et c'est également la raison pour laquelle il n'est pas autant apprécié ailleurs. Le Hezbollah n'a consulté aucun de ses partenaires libanais avant de déclencher une guerre pour défendre son allié, le Hamas, à Gaza. Voilà ce que relève Michael Young, qui est rédacteur en chef du Centre Carnegie pour le Moyen-Orient. Il l'a fait dans le cadre d'un groupe de milices pro-iraniennes appelé l'Axe de la Résistance. Ces groupes armés ont en commun de s'opposer à Israël et aux États-Unis depuis leur base au Yémen, en Irak, en Syrie ou donc au Liban. Alors comment va évoluer l'Axe de la Résistance ? Eh bien, sans avoir de boule de cristal pour prédire l'avenir, il est évident que le Hezbollah est considéré comme l'acteur le plus puissant de l'Axe de la Résistance. C'est lui qui dispose du plus grand nombre d'armes et de combattants. Mais la réputation du Hezbollah en tant que membre le plus redoutable des groupes pro-iraniens a été entachée et certains experts estiment que cela pourrait avoir de graves conséquences, notamment parce que, du moins dans l'immédiat, l'Iran semble avoir décidé de ne pas venir en aide ouvertement au Hezbollah. Au sein de ce groupe de milices, Hassan Nasrallah jouait un rôle plus grand que nature, pour reprendre les termes employés par les rédacteurs en chef du magazine New Lines dans un édito. Selon eux, je cite, « sa disparition ne signifie pas seulement la perte d'un habile tacticien, mais aussi la dégradation de tout un récit de résistance qui a animé la région pendant plus de 3 décennies. En attendant, les bombes tombent toujours sur le Liban. » Vous écoutez toujours Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. Alors nous nous rendons maintenant dans le Land de Thuringe, qui est situé en ex-Allemagne de l'Est, où le parti AfD est arrivé en tête des élections régionales du 1er septembre. Ces résultats ont choqué beaucoup d'habitants de ce Land, car l'AfD, eh bien, c'est un parti d'extrême droite. Au moment où nous enregistrons cette émission, 3 partis négocient encore ensemble pour tenter de former un gouvernement au niveau régional de coalition, sans inclure l'AfD. Ces partis en négociation sont la CDU, qui représente la droite chrétienne conservatrice, BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht, qui est un nouveau parti de gauche, et le SPD, le Parti social-démocrate de centre-gauche, qui est aussi le parti de Olaf Scholz, le chancelier. Mais le score de l'AfD aux dernières élections régionales ont fait peur, notamment aux étrangers et aux musulmans, allemands ou non, qui s'inquiètent pour leur avenir personnel dans une société qui leur est de plus en plus ouvertement hostile. À Erfurt, la capitale régionale, Souleymane Malik est en train de construire une mosquée pour sa communauté, les Ahmadiyya. Les politiciens de l'AfD rejettent bien sûr cette mosquée. Or désormais, c'est leur parti qui a la majorité au Parlement régional. Réaction de Souleymane Malik.
On sait depuis longtemps que le fascisme revient dans notre société. Et j'en ai moi-même fait l'expérience. Alors, les résultats des élections ne m'ont pas surpris. Ça fait longtemps que je mets en garde contre ça.
C'est en 2017 que des militants d'extrême droite ont érigé des dizaines de croix en bois devant le chantier de la mosquée. Souleymane Malik et sa communauté reçoivent alors le soutien du chef de région sortant, Bodo Ramelow, du parti de gauche.
Je vois les tracts hostiles, les autocollants, mais aussi la haine qui va avec, des têtes de porc qui ont été lancées sur le chantier, du sang de porc aussi, répandu par terre. Ce sont des choses que je considère comme inadmissibles.
Les Ahmadis sont donc un courant très conservateur, je vous l'ai dit, et sont persécutés dans de nombreux pays à majorité musulmane, car ils reconnaissent un prophète qui ne fait pas l'unanimité. En Allemagne, ils sont reconnus comme une population en danger. Le Parti des Verts a lui aussi pris fait et cause pour eux. David Maicher, qui est membre écologiste du conseil municipal de la ville de Erfurt, habite depuis des années près du chantier de la mosquée.
Dans le quartier, on a bien vu les oppositions au projet. La mairie du quartier et le conseil local se sont aussi prononcés contre la mosquée. On a entendu des phrases comme « on voulait une crèche et on a eu une mosquée ». Encore aujourd'hui, beaucoup sont hostiles au projet.
Le chantier a commencé il y a 7 ans, il n'avance pas très vite, les entreprises qui y participent font l'objet d'intimidations sur Internet et les ouvriers ne veulent pas répondre à nos questions.
Certaines entreprises ont refusé de travailler sur ces chantiers ou ont cessé d'y participer par peur d'être attaquées.
Presque tous les lundis soirs, une messe de protestation a lieu devant la mosquée en construction. Souleymane Malik a renoncé à discuter avec les participants à ces rassemblements.
Ils n'écoutent rien de ce qu'on leur dit. On ne peut pas parler avec ces gens.
Le ministre président de gauche sortant, Bodo Ramelow, va bientôt devoir céder son fauteuil car son parti a perdu les élections. Quant aux écologistes de David Maïcha, ils n'ont même plus un seul député au Parlement régional de Thuringe. L'AFD est donc désormais majoritaire. Stéphane Melun est le porte-parole du parti en Thuringe et il revient sur sa position vis-à-vis de la construction de mosquées.
Nous ne trouvons pas ça bien. On dit depuis toujours qu'on est contre aussi la façon dont est construit ce bâtiment, dont il est mis en valeur. On a l'impression que ces gens se moquent de la vie des habitants d'Erfurt, qu'ils se posent là comme pour donner un signal qui ne passe pas au sein de la population.
Les autres communautés musulmanes de la ville de Erfurt se rassemblent plutôt dans des zones industrielles, périphériques. Leurs membres ne souhaitent pas s'exprimer ouvertement. David Maïcha, des Verts, a une explication pour cela.
Je comprends tout à fait. L'AFD a annoncé vouloir supprimer tous les financements destinés au programme pour la démocratie aux immigrés. Tout est comme suspendu. Cela ne fait pas seulement peur aux immigrés, à moi aussi.
Souleymane Malik, lui, ne se cache pas, mais il est le seul de sa communauté à oser parler à des journalistes. Il a fui le Pakistan avec sa famille quand il était enfant, une expérience qui a forgé son caractère, dit-il.
Nous avons dû fuir notre pays à cause des extrémistes, et maintenant, on en voit ici aussi. Mais je n'ai pas peur, cela me donne au contraire le courage de continuer.
Et voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de votre fidélité. Merci à Sylvia Wassermann, Alain Fadel et Ralph Schnauf pour les sons. N'hésitez pas à podcaster Droits et Libertés en vous rendant sur la plateforme de podcast de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.